Ottawa, Afrique.
Le Monde aujourd'hui.
À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 2 novembre 2017. John Lydon en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, Liberia, la Cour suprême a reporté à vendredi l'audience pour statuer sur des allégations de fraude au premier tour. Le président sud-soudanais Salva Kiir accuse son voisin soudanais d'alimenter la guerre civile qui déchire son pays. En Espagne, 8 membres du gouvernement catalan destitués ont été placés en détention provisoire. Carles Puigdemont, lui, est toujours en Belgique. Polémique après l'attentat de New York, le président Trump accuse les démocrates de laxisme. Ces derniers dénoncent une récupération politique. Et puis, nous retrouverons Nicolas Pinault pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco. Bonsoir à tous. Les incertitudes persistent sur la tenue le 7 novembre du second tour de la présidentielle au Liberia. La Cour suprême a reporté à demain vendredi l'audience pour statuer sur les allégations de fraude du premier tour. Eric Manerakiza.
Cette audience devait se tenir aujourd'hui, mais la Cour suprême l'a renvoyée à demain vendredi pour des raisons de procédure. Le Parti de la Liberté de Charles Bromskin conteste des irrégularités de fraude massive et systématique. Le vice-président sortant Joseph Boakai a également soutenu cette plainte. La commission électorale devra s'expliquer. En attendant, la Cour suprême a suspendu toutes les actions liées au second tour du 7 novembre. Pour tenter de détendre l'atmosphère, la présidente Ellen Johnson Sirleaf a réuni hier à Monrovia le Guinéen Alpha Condé et le Togolais Fornia Simbe, respectivement présents en exercice de l'Union africaine de la CDAO, ainsi que les deux rivaux, Joe Joea et Joseph Boakai. Après cette rencontre, l'ex-star du football a rassuré ses partisans et leur a demandé de garder le calme, tout en rappelant que le combat démocratique continue.
Soutenue par la France, la nouvelle force anti-djihadiste G5 Sahel a lancé hier ses opérations aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger, une zone instable devenue un foyer pour les groupes extrémistes. Cette première opération baptisée Awawi est une démonstration de force pour reprendre pied dans une zone délaissée par les États, en entravant la liberté de mouvement dont bénéficient plusieurs groupes armés depuis des mois. Des éléments de l'embuscade ayant causé la mort de 4 militaires américains au Niger contredisent la version officielle. Selon un récit détaillé publié aujourd'hui par la chaîne américaine ABC, qui cite des sources nigérianes et des services de renseignement américains, l'opération les 3 et 4 octobre de l'équipe américano-nigérienne, qui a été présentée par le chef d'état-major Joe Dunford comme une patrouille de reconnaissance, était en fait une mission destinée à capturer mort ou vif un dirigeant djihadiste lié au groupe État islamique et Al-Qaïda et identifié comme Dantou Diéfou. Toujours au Niger, des étudiants ont déposé une plainte contre X après la mort de leur camarade lors d'une manifestation réprimée par les forces de l'ordre en avril. Le rapport d'une commission d'enquête indépendante avait conclu à la mi-août que Mala Bagalé avait été victime du tir d'un projectile d'un élément non identifié de la gendarmerie. Un juge nigérian a accusé hier l'ancienne ministre du pétrole de vouloir éviter la justice en Grande-Bretagne. Il a rejeté une demande visant à l'extrader pour la juger dans une affaire de corruption dans son pays. Madame Alison Madweke était la première femme à la tête de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole entre 2014 et 2015. Le président sud-soudanais Salva Kiir en visite à Khartoum a accusé le Soudan d'être une source d'armes utilisées dans la guerre civile qui déchire son pays depuis 4 ans. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
S'il y en a un qui peut accuser l'autre, c'est moi qui peux accuser le Soudan, a déclaré Salva Kiir lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue soudanais Omar El-Béchir. Salva Kiir effectuait sa 3e visite au Soudan depuis la sécession de son pays en 2011. Cette fois, le but est d'aplanir les nombreux différends entre les deux pays. Khartoum soutient que son voisin aide des insurgés dans les régions du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan Sud. De son côté, Djouba accuse le Soudan de soutenir les partisans de l'ancien vice-président Riek Machar, exilé en Afrique du Sud. Le chef rebelle Machar est également venu à Khartoum cette année pour des soins médicaux. Depuis le début de la guerre en 2013, selon l'ONU, plus de 450 000 Sud-Soudanais ont trouvé refuge au Soudan. Khartoum estime leur nombre à 1,3 million.
Au Malawi, au moins 18 soldats ont été tués, une dizaine de blessés dans un accident de la route jeudi dans le nord du pays, selon la police. Le chauffeur aurait mal négocié un virage et le véhicule a effectué plusieurs tonneaux. Le camion transportait une soixantaine de personnes qui rentraient au collège militaire de Salima après une formation. Le président burundais Pierre Nkurunziza a récemment instauré un contrôle strict des fameux tambours du Burundi, qui sont donc désormais interdits aux femmes et dont l'usage sera rigoureusement encadré par les autorités, selon un décret présidentiel.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump réclame la peine de mort pour Saifullah Saipov, accusé d'avoir tué 8 personnes en lançant un véhicule sur une piste cyclable mardi à New York. L'immigré ouzbek a été inculpé hier soir pour cette attaque qu'il a dit être inspirée par le groupe État islamique et avoir préparé depuis un an. Les précisions de Jacques Aristide.
Saifullah Saipov a fait une brève apparition en chaise roulante hier soir devant une juridiction fédérale de Manhattan. L'homme de 29 ans a été inculpé pour avoir fourni un soutien matériel et des ressources à un groupe terroriste étranger, ainsi que pour violence et destruction de véhicules ayant causé la mort de 8 personnes, dont 5 touristes argentins. Il encourt la réclusion à perpétuité pour le premier chef d'accusation et selon les cas de figure, et si le gouvernement le demande, la peine de mort pour le second, d'après le procureur de Manhattan par intérim, Jun Kim. Des chefs d'accusation supplémentaires pourraient être rajoutés ultérieurement. Dans un tweet ce jeudi, le président Trump écrit que le terroriste de New York était content car il a demandé à prendre le drapeau de l'EI dans sa chambre d'hôpital. Il mérite la peine de mort, ajoute-t-il. Saipov a indiqué aux enquêteurs avoir fait un essai de véhicule le 22 octobre pour apprendre à faire tourner sa camionnette. Il a déclaré se sentir à l'aise avec ce qu'il a fait après avoir été particulièrement motivé par une vidéo d'Abu Barka al-Baghdadi, le chef du groupe État islamique. Par ailleurs, le FBI affirme avoir localisé un autre ouzbek du nom de Mukhamadzwar Kadyrov, l'un des deux individus recherchés avec qui Saifullah Saipov est soupçonné d'avoir été en contact. L'attaque de mardi est la plus meurtrière à New York depuis les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours du World Trade Center qui ont fait plus de 2600 morts.
Un juge d'instruction espagnol a placé jeudi en détention provisoire 8 membres du gouvernement catalan destitués pourraient émettre un mandat européen contre 5 autres, dont le président Carles Puigdemont parti en Belgique. Bagassikoura.
Un 9e ministre, Santi Vila, qui avait démissionné avant la proclamation d'indépendance et seul à avoir répondu aux questions de la magistrate, a été écroué, mais il pourra être mis en liberté provisoire moyennant paiement d'une caution. La juge doit décider si elle accepte, comme l'a demandé le parquet, de lancer un mandat d'arrêt européen contre Carle Puigdemont et 4 autres ministres qui ont refusé de comparaître, accusant le parquet espagnol de nourrir, je cite, un désir de vengeance à son endroit. M. Puigdemont avait fait savoir par la voix de son avocat belge Paul Beckert qu'il était disposé à répondre aux questions de la juge, mais depuis Bruxelles à Barcelone, une manifestation a rassemblé plusieurs centaines de personnes brandissant des drapeaux indépendantistes et ils ont scandé « Liberté » et « Puigdemont est notre président ».
Des centaines de Palestiniens ont exprimé leur colère à Ramallah, en Cisjordanie occupée, à l'occasion du centenaire de la déclaration Balfour, document qui est à la base de la création d'Israël. Ces manifestants ont marché jusqu'à une représentation britannique en brandissant drapeaux et banderoles hostiles à la promesse de Balfour. L'héritage de Balfour, c'est l'apartheid, pouvait-on lire sur l'une d'elles. Le groupe État islamique a exécuté 741 civils au cours de la bataille de Mossoul, deuxième ville d'Irak reprise en juillet par l'armée irakienne à l'issue de 9 mois de combat. C'est ce qu'a indiqué l'ONU qui encourage Bagdad à saisir la Cour pénale internationale. Un total de 2521 civils ont trouvé la mort, la plupart dans des attaques djihadistes au cours de cette offensive, selon un rapport du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. C'est un scandale, il aurait... Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Jacques Aristide.
Le Fonds monétaire international pourrait débloquer avant la fin de l'année une seconde tranche de prêt d'environ 100 millions de dollars en faveur du Gabon. En juin, le FMI a approuvé un crédit sur 3 ans de 642 millions de dollars avec un premier décaissement immédiat de 98,8 millions de dollars. Une équipe du FMI a bouclé hier une visite de 2 semaines à Libreville. Le conseil d'administration de l'institution devrait examiner le rapport de cette équipe à la mi-décembre et décider alors de débloquer les fonds. Riche principalement de son pétrole et de sa forêt, le Gabon traverse depuis 2015 une période économique difficile, aggravée par la baisse des prix du brut, se traduisant par du chômage, des grèves, des entreprises qui tournent au ralenti ou mettent la clé sous la porte. En Tanzanie, le directeur général et le directeur financier d'Acacia Mining ont démissionné ce jeudi en marge des négociations pour clore un litige avec le gouvernement tanzanien. Les autorités ont infligé à Acacia, la filiale locale du premier producteur d'or mondial, Barrick Gold, un redressement fiscal record de 190 milliards de dollars. Le fabricant norvégien d'engrais Yara International annonce un projet d'usine au coût de 2 milliards de dollars au Mozambique. Le groupe pourrait faire appel à des partenaires financiers, d'après son directeur général, qui veut faire du continent africain un important marché des engrais. Yara, qui dispose de filiales en Côte d'Ivoire et en Tanzanie, est confronté à un recul de la demande en Europe et aux États-Unis.
Nicolas Pinault est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par le cyclisme avec le Tour du Faso.
Et oui, la 7e étape entre Banfora et Bobo Dioulasso est la première victoire burkinabé, en l'occurrence Abdelaziz Nikema qui passe en tête la ligne d'arrivée. C'est l'érythréen Simon Moussier qui endosse le maillot jaune. À suivre demain la 8e étape entre Bobo Dioulasso et Dédougou.
Coup dur pour Fawzi Ghoulam.
Le latéral algérien de Naples, victime d'une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit. Il s'était blessé après une demi-heure de jeu hier lors de la défaite de son équipe face à Manchester City. 4-2 en Ligue des Champions. C'est un très gros coup dur pour Naples, actuellement leader du championnat d'Italie.
Et puis Nicolas, important dispositif de sécurité pour la finale retour de la Ligue africaine des champions.
10 000 policiers mobilisés, gardes rapprochés pour les invités de marque, cordon sécuritaire pour protéger joueurs et supporters du club égyptien d'Al Ahly. Selon la presse marocaine, les autorités vont mobiliser les gros moyens pour ce match retour de la Ligue africaine des champions. 50 000 supporters sont attendus à Casablanca samedi. On rappelle qu'il y a eu match nul, 1-0 entre Al Ahly et le WAC de Casablanca au match aller.
Fin de la 4e journée de la Ligue des champions hier soir.
Dans le groupe E, après la gifle infligée à Maribor par Liverpool, les Reds ont battu les Slovènes 3-0 à Anfield Road. Séville prend la 2e place grâce à sa victoire sur le CSKA Moscou 2-1. Dans le groupe F, je le disais, au terme d'une nouvelle confrontation de qualité, Manchester City s'est imposé à Naples 4-2 et se qualifie pour les 8e de finale. La victoire du Shakhtar Donetsk face à Feyenoord éloigne un peu plus les Napolitains de la qualification. Dans le groupe G, Monaco a concédé le nul sur la pelouse de Besiktas et puis la belle victoire 3-1 de Porto contre Leipzig. Enfin, dans le groupe H, le choc en Angleterre entre les deux leaders Tottenham et le Real Madrid a tourné à l'avantage des Anglais qui s'imposent 3-1 et assurent leur présence en 8e de finale. Dortmund n'a pas réussi à battre Nicosie à domicile. Score final 1-0.
NBA, championnat de basket nord-américain pour terminer, Nicolas.
Ça ne va pas bien à Cleveland en ce début de saison. Quatrième défaite consécutive face à Indiana, 124 à 107. Et sur leur parquet, les Celtics de Boston signent une sixième victoire en écrasant Sacramento, 113 à 86, 22 points de Kyrie Irving. Et puis le Magic Orlando, qui n'a plus disputé les playoffs depuis 2012, a conforté sa deuxième place en s'imposant à Memphis, 101 à 99.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, présenté par John Lyndon, Sims Loumamia sur la production. Place à présent au dossier du jour et on commence par la Gambie. Le 2 novembre est la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Réunis derrière le slogan « Gambia Justice Must Prevail », une association pour les victimes de la dictature de l'ancien président a vu le jour. Le comité pour les victimes des atrocités de Jammeh souhaite aujourd'hui mettre la pression sur le nouveau gouvernement d'Adama Barrow pour obtenir justice. Je vous propose d'écouter Baba Haïdara, militant et fils du journaliste gambien Daïda Haïdara, assassiné en 2004. Il est joint à Dakar par Arzuma Compaoré.
Jammeh a fait assassiner mon père le 16 décembre 2004 en route. Ils l'ont attaqué avec des voitures et ils ont commencé à tirer. C'était une sorte d'exécution. On a créé l'association ça fait quelques mois. On a eu des réunions avec un monsieur qui s'appelle Reed Grody, celui qui a aidé les victimes de Hissène Habré à l'amener en justice.
Qu'est-ce que vous espérez exactement que cette association soit en mesure d'accomplir?
C'est simple, d'amener Jammeh en justice. Ce qui va être vraiment difficile.
Et pourquoi cela?
On ne peut pas faire le procès en Gambie parce que pour le moment, il y a toujours ses sympathisants. Il y a même toujours des soldats, la plupart c'était ces hommes. La deuxième raison c'est qu'on doit se préparer. On doit se préparer pour amener plus de preuves tangibles pour les avocats qui vont représenter toutes ces victimes-là le jour où on n'amènera Jammeh au tribunal. Et il y a autre aussi qui est aussi important, c'est comment faire sortir Jammeh de Guinée équatoriale où il se réfugie maintenant chez les Obiang.
Et qu'est-ce que l'association espère maintenant du nouveau gouvernement avec Adama Barrow à sa tête?
Premièrement, on espère une reconnaissance. Reconnaissance parce que jusqu'à présent, il n'a pas trop parlé de l'association. C'est seulement ses ministres qui sont venus faire des photos avec les victimes. Il nous reconnaît. Ça peut même encourager les autres de venir nous voir. On a enregistré 400 victimes déjà. Et on attend plus. Le problème, c'est que il y a beaucoup de victimes, ils ont honte de venir nous dire leur histoire. Alors, ce qu'on essaie de faire toujours, c'est les motiver pour venir nous joindre comme victimes. Parce que on a toujours besoin de plus pour que demain, quand on commencera à mettre en place le procès, d'avoir plus de matériel contre le dictateur, l'ex-dictateur.
C'était l'activiste gambien Baba Haïdara.
Et Kabadou avec vous dans Washington G5 Sahel. Lundi, Washington a annoncé l'octroi d'une aide bilatérale de 60 millions de dollars à cette force antiterroriste africaine. Mais les États-Unis refusent toujours d'accéder à la demande du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, des 5 pays du Sahel, de la France et d'une majorité du Conseil de sécurité d'autoriser un soutien de l'ONU. Y a-t-il une inflexion dans la position américaine? Comment les États africains peuvent-ils venir à bout de la menace terroriste? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous dans Washington Forum ce jeudi à 19h en temps universel.
En RDC, une personne sur 5 dans la province du Tanganyika, soit plus d'un demi-million des personnes, ont fui leur maison à cause des violences au cours des 15 derniers mois. La majorité des familles sont hébergées dans les zones de Kalemi et Nyonzu. 80% des déplacés n'ont pas accès à l'eau potable. Les conditions humanitaires se dégradent à tel point que l'ONU a placé la RDC en urgence de niveau 3. Claire Morin-Gibourg a joint à Kalemi la chef de mission du Norwegian Refugee, Ulrika Blom.
La situation humanitaire dans la province de Tanganyika est vraiment très compliquée et très difficile. Et il n'y a pas suffisamment de support pour une réponse humanitaire dans cette province. Nous avons visité les sites de déplacés au Calami qui montrent une situation vraiment très précaire en relation avec les abris. Dans le petit site en paille, il y a un grand risque d'incendie. Il n'y a pas de l'eau potable suffisamment, pourtant il y a de grands risques de maladie. Même avec des latrines, ils ne sont pas suffisants. J'ai vu aussi beaucoup d'enfants qui ne pouvaient pas aller dans l'école. La communauté humanitaire a besoin de beaucoup plus de capacités pour répondre à cette crise.
Quelles sont les premières urgences pour vous?
Pour moi, c'est vraiment ça qui va sauver des vies, qui va diminuer des maladies. Abri est très important. Les gens, ils ont besoin de les bâches, par exemple. Ils ne sont pas couverts quand il y a des pluies. Ils ne vont pas être suffisamment protégés et les gens peuvent mourir et il y a beaucoup de monde qui a peur de ça.
Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place avec le NRC?
NRC est une des organisations qui travaillent dans l'urgence et au Congo. On travaille déjà au nord et sud Kivu il y a beaucoup d'années. Et cette année, on a commencé à Kasaï Central, à Kananga, pour une réponse d'urgence mobile. Et c'est ça qui est aussi notre ambition maintenant pour Tanganyika. Comme il n'y a pas suffisamment de ressources, nous avons amené une équipe mobile ici pour une réponse de non-food items pour les déplacés et possibles retournés. Nous avons maintenant déclaré pour Congo le plus haut niveau d'urgence dans le monde. C'est le même niveau que Irak, Yémen et Syrie. Pourtant, je pense que je ne peux pas voir jusque maintenant qu'il y a quelques changements dans la terrain ici. Et je pense que c'est très important maintenant qu'on prenne ça sérieux et on mette en place des capacités et des fonds pour une réponse adéquate.
Ulrika Blom, chef de la mission du Norwegian Refugee Council.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Cameroun, la réhabilitation des jeunes aveugles connaît un succès remarquable grâce à un homme, Coco Bertin, lui-même malvoyant. Il a mis sur pied en 1988 le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Aujourd'hui, cette organisation non gouvernementale gagne en crédibilité, notamment grâce à son école primaire bilingue inclusive, fonctionnelle depuis 2003, qui accueille les enfants avec des besoins spéciaux. Notre correspondant à Yaoundé s'y est rendu. Reportage d'Emmanuel Juntap.
À l'école primaire bilingue inclusive Louis Braille, la ponctualité est de rigueur. 7h30 marque le début effectif des cours. Coco Bertin ne déroge pas à la règle. Handicapé visuel, il est le promoteur du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Coco nous conduit dans une salle de classe dite spécialisé.
Ici, c'est rien que les enfants handicapés. On les accueille d'abord ici. Et c'est après maintenant qu'on les amène dans les salles de classe, après qu'on leur ait donné une formation pour qu'ils soient capables de suivre le cours.
À l'intérieur, 19 élèves. L'ambiance est studieuse, sous la conduite de 3 enseignantes. 2 d'entre elles sont non-voyantes et l'autre est malvoyante. Blandine, Racheté et Esther éduquent néanmoins les élèves avec passion.
Blandine Mbappé, enseignante spécialisée. Là, nous voulons commencer par l'écriture de la date et de leur nom. Tous n'ont pas le même niveau.
Je suis Madame Racheté. Gisèle Braille. Après l'alphabet, on fait les syllabes, les mathématiques.
Mademoiselle Momme Gester. Elle.
Lundi.
Le moment où on aime ce qu'on fait, on éprouve du plaisir à le faire.
L'effectif 2017 de l'école primaire bilingue inclusive est de 250 élèves. À l'ouverture de l'établissement en 2003, l'école n'avait que 16 élèves. Certains parents envoient même leurs enfants valides y suivre des cours. Et depuis quelques années, des candidats spéciaux de l'école sont présentés aux examens officiels. À l'instar de Marcel Odile, elle a perdu la vue à l'âge de 8 ans et frappe aux portes du cycle secondaire en mai prochain.
J'avais arrêté au cours moyen 2, j'avais 9 ans. Je souhaitais vraiment étudier. Je suis restée très longtemps à la maison. Mon père avait décidé que je vienne apprendre à écrire le braille pour pouvoir avoir le CEP.
Si Marcel Odile est admise au lycée, c'est l'équipe du club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun qui va assurer la transcription de ces cours. La formation en braille attire également ici d'autres jeunes aveugles décidés à braver leur handicap. Dans la cour de l'école ce jour, la jeune Biloa.
Je ne suis pas née aveugle. C'est bel et bien vrai que étant encore petite, j'avais les problèmes de yeux. Avec le temps, la maladie a envahi mes yeux. Bon, moi, je suis là pour apprendre le braille et rentrer à l'école l'année prochaine.
Au-delà de l'éducation et de la formation des jeunes aveugles et personnes à besoins spéciaux, le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun nourrit aussi l'ambition de faire fabriquer la toute première canne blanche made in Cameroun. Le projet est avancé, affirme Coco Bertin. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Ici aux États-Unis, l'attaque de New York n'a pas manqué de diviser la classe politique. Trump, qui attribue le terrorisme à l'immigration, propose la suppression de la loterie pour les cartes vertes. Il a appelé à condamner à mort l'assaillant, un discours de nature à satisfaire son électorat, mais qui lui vaut les critiques de ses adversaires démocrates. Morgan Guiriec a joint Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University de Washington, D.C.
Trump, naturellement, a déjà pensé d'accuser le système d'immigration des États-Unis comme la cause de l'attentat. Le chauffeur du camion avait le titre de séjour permanent, la fameuse green card, obtenu par un programme de loterie qui permet chaque année à 50 000 personnes d'obtenir des visas. Et le président a déjà réclamé au lendemain de l'attaque la fin de ce système. Il a accusé les démocrates d'être ceux qui ont introduit cet programme. Il a oublié que le programme était soutenu et firmé par un président républicain, George Bush père. On voit une autre fois que le président utilise des informations mais qui ne sont pas correctes. Et ça a été reconnu même par les démocrates qu'il n'est pas le meilleur système dans ce moment, que c'est important peut-être de parler plus du système de mérite. Trump essaie de présenter cette réforme comme son idée, mais ce n'est pas ça.
Pour les partisans de Trump, le fait que l'assaillant vienne d'Ouzbékistan, ce ne serait pas la confirmation qu'il faut continuer le Muslim Ban, empêcher des musulmans de certains pays d'entrer sur le sol américain.
Naturellement, il va à fortifier cette perception négative des musulmans. Mais ironiquement, l'Ouzbékistan ne sont pas dans la liste des pays qui Trump a identifiés comme des pays dangereux pour les États-Unis. Il n'est pas quelqu'un qui est arrivé de l'extérieur. Cette personne a été ici plusieurs années déjà. Cette idée que le terrorisme islamique arrive ici de l'extérieur n'est pas correcte.
L'attaque de New York, ça a été aussi l'occasion pour les démocrates de critiquer le président.
Particulièrement parce qu'il utilise son habituelle et controverse liberté de parole. Il semble très perturbé par la tournure que prend l'enquête sur l'affaire dite de collusion avec la Russie. Il cherche de changer l'attention, le fait qu'il a demandé la peine de mort de cette personne. L'avocat de défense peut dire que le président a eu de l'influence sur le jury.
C'était Emilio Viano, professeur des sciences politiques à l'American University de Washington, D.C.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show, Adventure Temps Universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise à nom de par Sims Lumami. Thomas Blondet était à la console. présentation, John Lyndon. Merci à toute la rédaction de fidélité au programme de VO Afrique. Bienvenue à Raïssa Girondin qui rejoint la grande famille de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur notre page Facebook et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui.
VOA Afrique. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous de Washington Forum.